Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 60e rendez-vous technique RHFPT proposé par le blog NoRH.com. Je suis Pascal No, le créateur du blog du même nom, et je vais profiter de ce long week-end de l'Ascension pour vous parler aujourd'hui du conseil médical et de la nouvelle gestion des congés de maladie. Au 1er février 2022, avec l'ordonnance modifiant le régime des instances médicales, numéro 2020-1447 du 25 novembre 2020, article 13, des conseils médicaux se sont substitués à la commission de réforme et au comité médical. Leur fonctionnement a été adapté, modifiant la gestion des congés de maladie, prévue par le décret numéro 87-602 du 30 juillet 1987. La procédure devant le conseil médical. L'employeur saisit le conseil médical à son initiative ou à la demande de l'agent. Dans ce cas, il dispose de 3 semaines pour transmettre la demande au secrétariat qui en accuse réception auprès de l'agent et de l'autorité locale. À l'expiration de ce délai, le fonctionnaire peut faire parvenir un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception directement au secrétariat, ce qui vaut saisine du conseil. Son président, qui dirige les débats, instruit les dossiers assistés du secrétariat et peut les confier aux autres médecins. Le praticien peut recourir à l'expertise de médecins agréés dans le département ou, s'il n'en trouve pas, dans un autre département. Ils rendent leur expertise écrite et peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier comme expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. Attention, en formation dite plénière, anciennement commission de réforme, le conseil médical dispose des témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis et peut faire procéder par l'autorité locale à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise. Lorsque le dossier relève d'un examen par la formation restreinte, anciennement comité médical, le secrétariat informe le fonctionnaire de la date d'examen du dossier, de son droit de le consulter et des voies de contestation devant le conseil médical supérieur. Pour la formation plénière, le secrétariat informe l'agent de la date d'examen du dossier, de son droit de consulter et d'être entendu par le conseil médical. Elle examine le dossier dans le mois de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par le secrétariat et sous 2 mois si des mesures d'instruction, d'enquête ou d'expertise sont nécessaires. Dans tous les cas, le fonctionnaire peut présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux et être accompagné ou représenté de la personne de son choix. 10 jours au moins avant la réunion, le secrétariat l'invite à prendre connaissance personnellement ou par son représentant de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée sur demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. Le fonctionnaire et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil qui entend le fonctionnaire s'il le juge utile. Concernant le quorum des séances, la formation restreinte ne peut siéger que si au moins 2 de ses membres sont présents et la formation plénière si au moins 4 membres dont 2 médecins et 1 représentant du personnel sont présents. En l'absence de quorum, une nouvelle convocation est envoyée sous 8 jours et la formation siège valablement, quel que soit le nombre de présents. En cas d'absence du président en séance, elle est assurée par le médecin qui l'a désigné ou, à défaut, le plus âgé des praticiens présents. Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre et les avis sont émis à la majorité des présents ou représentés. En cas d'égalité des votes, le président a voix prépondérante. Il peut organiser les débats en visioconférence si elles garantissent le respect du secret médical. L'avis du comité médical en formation plénière est motivé. Dans tous les cas, l'avis est notifié dans le respect du secret médical à l'employeur et à l'agent par le secrétariat, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. L'employeur ou la CNRACL informe le conseil médical de leur décision. Attention, lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur un pompier professionnel, le secrétariat en informe le médecin des sapeurs-pompiers. Le conseil médical supérieur peut être saisi par l'employeur ou à la demande du fonctionnaire. La gestion des congés de maladie. Dans la gestion de la maladie ordinaire, le décret maintient la possibilité pour l'employeur de faire procéder à tout moment une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Mais cette visite devient obligatoire au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé maladie. L'agent doit avoir été prévenu de façon certaine par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ici soumettre sous peine d'interruption de sa rémunération jusqu'à sa réalisation. Le texte réécrit également les conditions de prononcé d'un congé de longue maladie ou de longue durée d'office. Si l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou du rapport de ses supérieurs, qu'un agent est susceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil. Pour en bénéficier, le certificat fourni par l'agent n'est plus nécessairement celui de son médecin traitant, mais peut être celui de tout médecin. Le praticien, adresse au conseil un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l'état de santé du fonctionnaire. Pour en obtenir le renouvellement, l'agent adresse à l'employeur un certificat médical indiquant que le congé initial doit être prolongé ainsi que la durée de la prolongation, entre 3 et 6 mois. À épuisement des droits à rémunération à plein traitement de l'agent, l'employeur saisit pour avis le conseil médical du renouvellement et fait procéder à l'examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Ce dernier en est informé de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception et doit s'y soumettre sous peine d'interruption de la rémunération jusqu'à réalisation de l'expertise. Concernant les obligations de l'agent, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée cesse toute activité rémunérée, hors celle ordonnée et contrôlée par le médecin du travail au titre de la réadaptation et la création des œuvres de l'esprit. En cas de méconnaissance de cette obligation, l'employeur interrompt le versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. Il la rétablit le jour où l'agent cesse toute activité non autorisée. Mais le temps d'interruption entre dans le décompte des droits à maladie. Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit, par ailleurs, informer son employeur de tout changement de domicile, sauf hospitalisation, et de toute absence de plus de 2 semaines, en précisant ses dates et lieux de séjour. À défaut, l'employeur peut interrompre la rémunération sans y être obligé, mais la période entre dans le décompte des droits à maladie. Concernant la reprise de fonction, hormis le cas où le conseil médical doit être saisi, la reprise de fonction après un congé de longue maladie ou longue durée à l'expiration ou en cours de congé intervient avec la transmission à l'employeur d'un certificat médical d'aptitude à la reprise. En cas de réintégration à l'expiration des droits à congé rémunérés ou si les fonctions exigent des conditions de santé particulières ou d'un congé de longue maladie ou de longue durée prononcée d'office, cette reprise intervient sur avis favorable du conseil médical. Le décret intègre la période préparatoire au reclassement en prévoyant que l'agent, qui ne peut pas reprendre à l'expiration de la dernière période de longue maladie ou de longue durée, est reclassé pour inaptitude. Admis à bénéficier d'une période préparatoire au reclassement, PPR, confirmant qu'elle n'est pas un préalable nécessaire à un reclassement qui peut donc être prononcé directement. À défaut, l'agent est mis en disponibilité ou à la retraite, sur avis du conseil médical. Au plan financier, les honoraires et frais médicaux résultant des examens et des frais de transport du malade restent à la charge de l'employeur. Mais ils pèsent sur la caisse des dépôts en cas d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et de la CNRACL lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité en cas de handicap, de retraite pour invalidité imputable au service, de pension de reversion ou d'orphelin. Globalement, le texte substitue les termes de conseil médical à ceux de comité médical et de commission de réforme. Dans le texte de la maladie, celui sur les stagiaires, les fonctionnaires à temps non complet, la CNRACL, les sapeurs-pompiers professionnels ou les contractuels, les sapeurs-pompiers professionnels ou les contractuels prévoient explicitement dans le décret pour les contractuels que l'exigence de vérification des conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions n'existe que lorsque des conditions de santé particulières sont requises pour l'admission à certaines fonctions ou pour le recrutement d'un fonctionnaire. Concernant les dispositions transitoires, les médecins agréés, membres des comités médicaux et commissions de réforme au 1er février 2022, date d'entrée en vigueur du décret, siègent comme membres des nouveaux conseils médicaux pour la durée restante de leur mandat et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022. La présidence de ces conseils est assurée jusqu'à cette date par le président du conseil médical ou, à défaut, le plus âgé des médecins présents. Les représentants du personnel à la commission de réforme conservent leur attribution jusqu'au renouvellement des instances paritaires et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2023. Les avis demandés aux comités médicaux et commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur du décret qui n'ont pas été encore rendus à cette date sont valablement rendus par les conseils médicaux. Le délai de saisine de 2 mois du conseil médical en cas de contestation des conclusions du médecin agréé, à compter du moment où elles sont portées à la connaissance de l'employeur ou de l'agent, concerne les saisines des conseils médicaux et du conseil médical supérieur à compter du 1er février 2022. Les arrêtés ministériels qui doivent définir les conditions d'aptitude particulière requises pour certaines fonctions ne seront opposables qu'avec les modifications des statuts particuliers qui doivent les prévoir explicitement. Merci pour votre écoute pour ce rendez-vous technique consacré au conseil médical et à la nouvelle gestion des congés de maladie. Au plaisir de vous retrouver sur le blog noRH.com. Au revoir.